Dans le service public, 70% des hommes prennent ce congé paternité et s'en trouvent heureux. Et dans le service privé, certains employeurs disent aux hommes, c'est pas toi qui donnes le sein, donc tu dois venir au travail. Et c'est un mauvais raisonnement.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik s'est vu confier une mission sur les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une période essentielle pour les bébés, pour leur bon développement et leur construction. Dans ce rapport, il est évidemment question des enfants, mais aussi des parents, de l'isolement de la mère après la naissance, des dépressions périnatales, mais aussi de la place du père, ou plus largement, du deuxième parent. D'où cette préconisation, un congé paternité de 9 semaines. Mais l'exécutif a tranché, à partir de ce 1er juillet, ce sera 1 mois, 4 semaines, au lieu des 11 jours en vigueur depuis le début des années 2000. C'est une avancée qui colle à l'époque, mais c'est encore bien en deçà de ce qu'espéraient les associations, à savoir l'équivalent du congé maternité, et c'est 16 semaines.
Il y a plus de 700 000 naissances en France par an, donc ça concerne tout le monde en fait, la parentalité. On n'en parle jamais, c'est super d'avoir des enfants, mais il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que ça se sache.
Sur les 28 jours de ce nouveau congé paternité, seulement 7 seront obligatoires immédiatement après l'accouchement. Les 3 jours dits de naissance sont toujours pris en charge par l'employeur. Les 25 autres seront indemnisés par la Sécurité sociale.
Il y a encore un manque de vision des gouvernements et un manque d'engagement des pères en particulier. Et quand il y aura les deux qui vont arriver, ça va changer.
Aujourd'hui, 3 pères sur 10 ne prennent pas leur congé paternité actuel. Il ne faut pas le confondre avec un congé parental cette fois. Lui est plus long à prendre après la naissance de l'enfant. Et là, ils sont très peu nombreux à s'engager sur 3, 4, voire 6 mois à la maison pendant que la mère, elle, reprend son activité professionnelle. Un congé paternité plus long, un progrès bien timide, c'est un reportage de Magali Fichter avec Hélène Langlois.
Votre destination se trouve sur la droite.
Interception, le magazine de la rédaction.
Donc on est arrivé à Bilvisheim, un petit village alsacien. On est devant la maison de Julien et Marie-Hélène, une jolie maison verte. On va rencontrer Julien parce que c'est un papa qui a pris un congé parental à la naissance de sa fille. Il a pris un congé parental de quelques mois et c'est extrêmement rare pour un père. En fait, les congés parentaux sont pris à 97% par des femmes. Donc il va nous expliquer pourquoi il a fait ce choix.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Léon.
Mon prénom c'est Julien, j'ai 33 ans, je suis responsable technique dans une boîte d'informatique et j'en ai profité après la naissance de notre fille Léonore, qui est notre première fille, de prendre un congé parental de 4 mois, donc de saisir cette opportunité. Et ce qui a aussi permis à ma femme, Marie-Hélène, de continuer de travailler dans sa profession libérale.
Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 32 ans. Je suis orthophoniste et j'ai accouché du coup de Léonore en décembre 2019 et j'ai pris un congé jusque mi-mai.
Comment vous avez décidé que Julien prendrait un congé parental de 4 mois ?
On n'en a pas vraiment discuté, je crois que c'était quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement. Je pense que Julien, il avait vraiment envie de s'occuper de notre fille et de rester avec elle. Et du coup, il n'y a pas eu de vraie concertation, de discussion particulière par rapport à ça.
C'était pas nécessaire, ouais, finalement, d'en discuter parce que bah, je suis en salariat, donc forcément, j'avais plus de facilité de prendre comme ça 4 mois et de pouvoir après reprendre le travail. Alors qu'elle est en libéral, évidemment, si elle arrête de travailler, c'est beaucoup plus compliqué déjà pour tout ce qui est... les indemnisations des aides, et de manière très pragmatique, elle gagne plus que moi aussi, de par son métier. Et c'est quelque chose que j'avais aussi envie de faire, de manière, au moins pour mon premier enfant, vraiment, d'avoir cette proximité, de découvrir ça de la sorte. Quoi.
17 mars, confinement, et 1er mai, début du congé paternité.
Exactement, ouais, c'était 17 mars, c'était déjà. Ouais. Ouais, donc j'ai eu presque un mois et demi où j'étais à la maison avec ma fille déjà, où ma femme était aussi encore là, vu qu'elle était encore en son congé de maternité, s'arrêtait justement le le 1er mai, quand le mien commençait. Hein. Donc du coup, on était tous à la maison. C'était vraiment une très belle période, je m'en souviens encore.
Et puis j'imagine que c'était un moment parfait pour apprendre aussi.
Ah oui, clairement, oui. Bah, cette période de transition aussi, ça m'a permis de voir comment ma femme gérait un peu le quotidien avec Léonore. Bah, de voir un peu ce qui fonctionnait pour elle déjà. Et de aussi voir les moments où peut-être je me disais, ah bah là, j'aurais fait différemment. Je pense pour Léonore aussi, c'était peut-être mieux qu'il y ait cette transition plutôt que de dire, voilà, bah là, j'étais toujours avec maman. Et là, tout d'un coup, maman, elle est plus là et il n'y a plus que papa. Je le voyais que le soir, un peu, pour le coucher, ou le matin, mais que, j'ai envie de dire, elle ne me connaissait pas de la même manière qu'elle connaissait sa maman à ce moment-là. Mon congé parental, au début, aurait peut-être aussi été plus compliqué à cause de ça que ce qu'il a été là, grâce à cette période de transition qu'on a pu avoir, justement.
Et vous, Marie-Hélène, est-ce qu'il y avait des appréhensions de votre côté? Est-ce que ça vous faisait bizarre de repartir vous au travail et de laisser votre bébé à Julien?
Alors, moi, j'étais contente de retourner travailler. Et du coup, j'étais vraiment rassurée, en fait, de laisser Léonore à Julien. En fait, je savais qu'il allait très bien s'en occuper et j'étais vraiment sereine par rapport à ça. Au début, je lui laissais des petits mots avec ce qu'elle doit manger, à quelle heure la coucher et tout ça. Mais, enfin, je sais pas, ça a duré 2 jours et après, il s'en est super bien occupé. Et...
Oui, il faut aussi dire, elle était quand même très disponible. Si j'avais des questions très concrètes par rapport à qu'est-ce que je peux lui donner à midi, là... Moi aussi, ça me rassurait, forcément.
Moi, je me souviens juste que, avant ton congé, tu pensais que tu allais pouvoir passer la tondeuse, travailler sur la voiture, ouais. Très facilement. Et au bout d'un moment, tu m'as dit, mais en fait, c'est du boulot, hein, de rester à la maison. J'ai dit, bah oui, c'est vraiment du boulot. Et je sais pas si t'as pu passer la tondeuse sereinement, aller peut-être une fois ou deux. Mais t'as pas été aussi libre de faire ce que tu voulais faire. Ça, je m'en souviens.
J'ai clairement sous-estimé le besoin en disponibilité, hein. On ne mesure pas le poids de cette responsabilité. Et effectivement, avant, je me suis dit, ah bah, pendant sa sieste, je pourrais faire ci ou ça, mais on n'anticipe pas forcément non plus qu'une sieste, des fois, elle ne dure que 20 minutes. Et bah, des fois, elle dure 1h30 et qu'on ne sait jamais trop à l'avance comment s'organiser, ce qu'on peut faire. Et c'est là où, effectivement, il y a eu un peu des surprises par rapport à ce que j'avais anticipé. Hein.
Fais attention à ta tête. Allez, chlouf. Chlouf, là. C'est chaud.
Un peu d'étalé en fait. Tout va bien, Léo. Tout va bien.
Bonjour.
Vous m'entendez bien, ça va?
Ça va, disons que c'est un peu étouffé par le masque.
Isabelle Filioza est psychothérapeute, c'est aussi la vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, commission qui préconise 9 semaines de congé pour le deuxième parent. Nous l'avons jointe en visio pendant le 3e confinement pour lui en demander la raison.
Eh bien, 9 semaines parce que c'est un temps suffisamment long déjà, même si plus il y a de temps, mieux c'est, mais c'est déjà un temps suffisamment long pour que ce que nous cherchions puisse s'installer. Et ce que nous cherchions, c'est favoriser l'attachement entre l'enfant et son papa, fournir au papa le temps nécessaire pour s'accorder à son enfant.
C'est quoi le bénéfice finalement pour l'enfant à avoir ses deux parents près de lui et surtout pendant ses premiers jours de vie? Qu'est-ce que ça va changer pour lui?
Ah, ça va changer énormément de choses sur différents plans. Déjà, étant donné que ça soulage la maman, ça va réduire les risques de dépression, ça va réduire l'épuisement parental, ça va donc permettre à la maman d'être beaucoup plus disponible et accueillante pour son tout petit. Ça fluidifie tout. Quand on est juste deux face à face, parce que trop souvent la maman se retrouve seule avec son nourrisson à la maison, et bien c'est fascinant un nourrisson, mais bon, ça parle pas énormément, et voilà, on a toute cette réduction phénoménale du nombre d'interactions. Il n'y a pas trop d'adultes autour de nous, puis on n'a pas le temps non plus d'être en relation avec d'autres, de téléphoner, etc. Bref, on est de longs moments seul avec le bébé, et rien que ça, c'est pas si facile à vivre. Donc, quand le papa est présent, c'est déjà un premier bénéfice pour la maman et donc pour le bébé qui bénéficie d'une maman plus disponible. Mais c'est aussi une interaction avec quelqu'un d'autre que maman. Or, on se rend compte que le cerveau du bébé se construit suite à ces interactions. Chaque fois que nous sommes en interaction avec un tout petit, même minuscule, il y a ces phénomènes d'accordage de cerveau qui font que les neurones du petit se connectent, se structurent, etc. Et donc, chaque expérience de relation avec un autre humain va nourrir en quelque sorte le cerveau du tout petit. Si le cerveau du tout petit est nourri par juste une personne, c'est déjà super, mais c'est sûr que lorsqu'il est nourri par deux personnes, et même dans une famille élargie par trois, quatre, parce qu'il y a d'autres enfants qui sont présents, parce qu'il y a une multiplicité d'interactions, eh bien l'enfant se sent en toute sécurité avec de multiples stimuli différents. Et puis, le papa connaît mieux son enfant. Il vit avec, donc il le connaît plus intimement. C'est lui aussi qui se lève, qui va le prendre, qui va s'occuper de lui de multiples manières, répondre à ses besoins. Donc, le cerveau de l'enfant se cale sur celui de son papa, mais le cerveau du papa s'organise aussi en fonction de la relation avec l'enfant. Vous savez, de manière générale, on a un peu tendance à penser que les mamans sont plus anxieuses, elles sont plus sur leurs enfants, elles téléphonent tout de suite au pédiatre, au moindre problème. Oh là là, pourquoi tu t'inquiètes comme ça, dit souvent le mari. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que les études montrent que lorsque c'est le papa qui reste à la maison, c'est le papa qui va téléphoner au pédiatre, qui va être anxieux, etc. Et la maman qui sera un peu plus distante, dit donc, ouais, tu t'inquiètes pour rien, etc. Donc, ça montre bien que ça n'est pas le sexe qui fait qu'on est attentif aux besoins de l'enfant et qu'on est plus inquiet, mais tout simplement lorsqu'on connaît bien l'enfant et que donc on sait détecter les minuscules signaux qui nous informent que, tiens, là, il y a probablement un souci.
On est toujours avec Julien, qui a pris un congé parental de 4 mois pour s'occuper de sa fille. Et cette disponibilité de un peu de tous les instants, est-ce qu'elle vous en avait parlé, votre femme, puisqu'elle elle était passée par là avant vous ?
Oui, mais voilà, il faut vraiment l'avoir vécu pour vraiment comprendre tout ce que ça implique. Et après, à l'opposé, hein, ça je le cache pas, et j'en suis pas particulièrement fier, il y a aussi eu des moments où psychologiquement, mentalement, j'étais juste épuisé, j'en avais marre, ou un peu le cliché où on a envie de dire j'ai juste envie de la secouer pour qu'elle se taise. Bien sûr, on n'a jamais fait ça, mais où j'ai pu, pendant une fraction de seconde, comprendre comment ça arrive des bébés secoués. Mais oui, évidemment, tout de suite, je me suis dit non, tu te calmes, ok, tu la poses, maintenant, tant pis, il faut la laisser pleurer 2-3 minutes, tu sors, tu souffles un coup. Et après, tout de suite revenir, évidemment, pour être là pour elle, quoi.
C'est des récits qu'on entend de plus en plus, hein, mais plutôt dans la bouche de maman, en fait.
Mais je pense parce que le papa, on arrive dans une période où de plus en plus, on donne la possibilité au père de pouvoir vivre cette situation. Je vois bien mes parents, ou même les parents de mes amis, ou encore de la génération un peu d'avant. Dans ces moments difficiles, le père aura tendance à se décharger, à dire « Ah non, moi j'en ai marre, moi je pars, t'as qu'à t'en occuper. » Voilà.
Ou à pas être là.
Ou à pas être, voilà, ou à pas être là.
Et en termes de charge mentale, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas ? Je vois Marie-Hélène qui secoue la tête négativement.
je pense pas. Je pense que, et c'est certainement de ma faute, mais que la charge mentale, c'est pour Bibi.
Non, c'est pas une question de faute. C'est plus Marie-Hélène qui a tendance à prendre les rênes. Moi, j'ai plus tendance à me complaire dans la situation, à dire bon, elle gère, on va faire comme elle a dit, et moi je suis, quoi. C'est...
Après, c'est vrai que moi, quand j'ai repris le boulot, je me souviens m'être dit qu'il faut que je pense à mes patients, au compte-rendu, à reprendre. Enfin, il fallait tout recommencer. J'avais eu un congé maternité qui était long. J'avais une remplaçante qui bossait beaucoup. J'ai dû enlever un jour de boulot pour m'occuper de Léo. Enfin, ça a été vraiment plein de choses auxquelles il fallait que je pense. Plus avoir la charge mentale de la maison et prévoir les journées de Julien, de lui prévoir, je sais pas, le sac à langer s'il veut partir, de prévoir. Et je me souviens que c'était pas évident de penser à tout ça, quoi. Oui, le crocodile. Qu'est-ce qu'il a dans les mains, le crocodile? Il est allé à la boulangerie, à la pâtisserie, chercher des...
Qu'est-ce que tu aimes manger, toi?
Des gâteaux.
Gâteaux?
Interception sur France Inter.
Alors, je vais laisser Ségolène Royal vous répondre.
Il faut affirmer dès la naissance la place fondamentale du père au même titre que la place de la mère, sans confusion des rôles.
Introduit dans les années 2000, le congé paternité de 11 jours a su trouver sa place, avec en premier lieu le souhait de plus en plus marqué des pères à prendre cette poignée de jours. Cette volonté a aidé les entreprises à évoluer sur la question, même si aujourd'hui, un tiers des pères ne prend toujours pas ce congé. Souvent, c'est une question de statut, les plus précaires ou les plus pressurisés, comme les indépendants ou les cadres, ne se permettent pas ce que les salariés plus stables considèrent, eux, comme un quasi-réflexe.
On se trouve dans la cour d'un très grand immeuble moderne dans le 8e arrondissement de Paris. Une tour tout en verre, c'est le siège d'un grand cabinet d'avocats. On va rencontrer Vincent, il est avocat justement, mais il est aussi jeune papa d'un petit Anatole. Et lui, il n'a pas pris son congé paternité, en tout cas pas en entier.
Bonjour.
Bonjour,
ça va?
Oui, ça va.
Alors voilà, vous êtes dans un cabinet américain.
Moi, j'étais comme beaucoup hyper attaché dans l'idée au congé paternité. C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait absolument, d'abord pour soi, pour devenir père, il fallait profiter de ce moment. Et puis aussi dans un sujet un peu d'égalité, quoi. Pas laisser sa femme seule avec un enfant alors qu'on venait de commencer. Surtout qu'elle aussi est avocate. Donc mon idée avant la naissance, c'était évidemment, je vais tout prendre. Et chez les avocats, on a une spécificité, c'est que c'est un peu plus long. C'est déjà 4 semaines. Donc l'idée, c'était de prendre 4 semaines. Et en plus... Je travaille avec des gens qui sont plutôt favorables à ça. Après, la réalité, c'est que j'ai pas pris 4 semaines. J'ai pris 1 semaine après la naissance et puis peut-être 8 jours en plus, mais disséminés sur 3 mois. Alors pourquoi ? J'ai du mal à. Je m'interroge en répondant à cette question. Je pense que c'est un peu le même genre de sujet qui font qu'en fait les avocates femmes, elles aussi ont du mal à prendre l'intégralité de leur congé maternité. C'est peut-être très au métier, généralement, à ce que font les professions libérales. C'est-à-dire qu'on est en direct avec des clients, on a des échéances, on a beaucoup de travail. C'est un peu la manière dont ça fonctionne. Et je sais pas, il y a une forme d'auto-limitation, contraire même à mes principes, qui a fait que je me suis retrouvé à finalement amputer peut-être de moitié ce que j'aurais dû prendre. Je pense que malgré moi, le fait de savoir que les dossiers continuaient, que le travail s'empilait, que je laissais peut-être aussi le reste de l'équipe un peu... solo sur des trucs où ils avaient peut-être besoin de moi, a fait que je suis retourné au boulot au bout d'une semaine et de façon, encore une fois, comme un zombie, quoi. Après, bon, il faut être honnête aussi, c'est en tant que profession libérale, on est indépendant. Tu reviens peut-être parce que tu as plus de flexibilité aussi et qu'on n'est pas dans un truc où si tu reviens, tu reprends tes horaires tels quels, tu commences à 9h, tu finis à 18h30 et c'est comme ça. C'est peut-être aussi une des explications.
Et votre femme, elle en disait quoi de tout ça?
Ma femme, elle m'a fait remarquer que j'avais pas pris mon congé paternité. C'est drôle. Moi, la grande gueule qui, en permanence, était expliqué, ouais, attention, c'est un sujet d'égalité, c'est important, évidemment, faut le faire, et ceux qui le font pas, hein, je dois dire que je me suis même pas rendu compte que je le faisais pas. Il y avait un côté où j'avais l'impression déjà que, finalement, les petits arrangements que j'avais avec mon quotidien d'avant la naissance faisaient quelque part, c'était satisfaisant. Et c'est elle qui m'a fait remarquer, reconnaître, et un peu conseiller que... J'avais pas pris ce que j'avais le droit de prendre. Voilà.
Mars 2020, confinement. Là, ça vous a permis de passer plus de temps à 3 finalement. Parce que j'imagine, pareil, comme tout le monde, télétravail, etc. Donc ça a été bénéfique.
Ça a été plus que bénéfique. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte du confinement, qui a évidemment chamboulé tout le monde de A à Z dans nos vies quotidiennes, je crois qu'il n'y avait pas meilleur moment pour être jeune papa. Je sais pas pour la jeune maman parce qu'elle se tapait l'enfant et le papa en même temps, mais en tout cas pour être jeune papa, clairement c'était le meilleur moment.
Et d'ailleurs, si vous aviez un deuxième enfant plus tard, est-ce que vous feriez différemment? Est-ce que là, cette fois-ci, vous essayeriez de prendre les 4 semaines ou pas?
Oui, je pense que je prendrais ce qu'on me donne, vraiment. J'ose espérer que d'ici là, même si ça peut arriver vite, on ne sait jamais, ce sera obligatoire, qu'on viendra dire aux gens, en fait, vous posez vos jours, c'est comme ça.
Laurence Breton-Cuigny, DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de l'Association nationale des DRH. Les chiffres le montrent bien, les 11 jours aujourd'hui ne sont pas toujours pris. À cela, plusieurs raisons. C'est vrai que les 3 jours sont intégralement financés, ce qui n'est pas le cas pour les autres jours. Donc ça, c'est un point important. C'est vrai que nous, en tant que DRH, donc vous imaginez bien, on négocie beaucoup d'accords égalité, qualité de vie au travail, dans lesquels notamment on finance. Donc c'est un point important parce que parfois, certains ne prennent pas ces jours parce qu'ils ne sont pas financés à 100%. Donc là, on va avoir une évolution puisqu'à partir du 1er juillet, il y aura 7 jours intégralement financés. Après, les autres jours, effectivement, seront financés jusqu'à une certaine hauteur. Et après, bon, on a déjà vu la mise en œuvre dans certaines branches, voire dans certains accords d'entreprise, de la prise en charge complète. Mais on a un autre élément important qui sera effectivement les délais de prise de ces jours et la façon dont ils seront répartis. Donc tout ça, ça peut être vu notamment au travers d'accords.
Vous l'avez dit, il y a ces 7 jours obligatoires et qui sont intégralement financés. Et puis, il y a le reste. Quel coût, finalement, pour les entreprises, si on veut arriver à financer intégralement, ou en tout cas le plus possible, si on veut compléter ce congé paternité?
Déjà, ce qu'il faut bien se souvenir, c'est le congé paternité. Les personnes sont éligibles si elles ont suffisamment cotisé pour être éligibles. Donc là, on nous dit que l'allongement sera financé par la Sécurité sociale jusqu'au plafond de 3 428 euros par mois. Voilà. Déjà, c'est rare d'avoir des personnes qui vont au-delà, hein. Peut-être plus en Ile-de-France qu'ailleurs, mais tout de même, ça reste à la marge. Et puis, de voir vraiment la concrétisation sur le terrain. Parce que jusque-là, finalement, le congé paternité était très faible. Il y avait des plafonds très bas. Donc là, ça va être, à mon avis, beaucoup plus incitatif pour avoir une mise en œuvre. Ensuite, il faut vraiment, et là, c'est plus au niveau des organisations, voir comment ces jours seront pris. Alors, on ne parle pas des 7 jours qui, eux, sont vraiment positionnés, mais des autres 21 jours, la façon au niveau de l'organisation. C'est de voir, effectivement, si l'autre parent, ou le père, généralement c'est le père, mais c'est pas toujours le cas, hein, ça peut être l'autre parent, va le prendre à l'issue du congé de maternité. Donc voilà, et il faut être en accord avec son employeur, parce qu'en fonction effectivement du poste tenu, est-ce que ça va être fractionné ou pas? Je pense que ce qui va être important pour nous en tant que DRH, c'est l'introduire dans nos accords pour veiller justement à ce que les pères ou l'autre parent éligible au congé paternité les prennent. Parce que parfois, effectivement, il y a encore, et on le voit parfois, culturellement, un blocage. Alors, en général, les nouveaux pères, moins, puisque ce qui est bien, c'est effectivement, on arrive à une co-responsabilité. Mais là encore, le fait d'avoir des accords et des indicateurs qui montrent, effectivement, chaque année que ces congés paternité sont pris, nous permettent de progresser.
Dans le 6e arrondissement de Paris, on est à la Cité Audacieuse, qui est un lieu dédié à l'égalité femmes-hommes et aux droits des femmes. Et on va rencontrer Claire Tran, qui est porte-parole de l'association Parents et Féministes.
La France, elle est en retard au niveau du congé paternité en Europe. On n'est clairement pas du tout très bons élèves. Les pays nordiques sont mieux dotés. Alors, ils ont des politiques natalistes, parce que voilà, ce sont des petits pays. Pour encourager la natalité, ils ont aussi beaucoup travaillé, et depuis longtemps, sur ce sujet-là. Et surtout, ce sont des gouvernements féministes. En Norvège, ça fait 40 ans qu'ils travaillent sur le congé paternité, sur l'allongement. Aujourd'hui, on est entre 15 et 19 semaines de congé. En Suède, 16 semaines. En Finlande, par exemple, on est à 164 jours de congés indemnisés. Et l'Espagne, qui est un pays qui nous ressemble, vient d'allonger son congé à 16 semaines en 2021. Et ce qui est intéressant avec l'Espagne, c'est qu'ils ont fait ça de manière progressive. Il est passé de 5 semaines à 8, puis à 12 en 2020, et il vient de passer à 16. Donc il est d'égale durée au congé maternité. Et il est rémunéré à 100%. Donc si l'Espagne peut le faire, la France peut le faire.
Pourquoi c'est intéressant que ce soit progressif ?
Sans doute que le côté progressif de leur réforme permet à la population de se préparer et d'intégrer les réformes. Parce que c'est vrai que ça peut être brutal de passer de 5 semaines à 16 semaines. Ils ont fait ça de manière intelligente. Ils se sont tenus à leur calendrier. Ils n'ont pas fait machine arrière, malgré la pandémie même. C'est assez inspirant pour la France. Et je me dis que justement, ces 28 jours en juillet peuvent être une première étape pour aller beaucoup plus loin. Et je pense que le courage politique manque cruellement sur des sujets qui sont hyper importants. Il y a plus de 700 000 naissances en France par an, donc ça concerne tout le monde, en fait, la parentalité. On n'en parle jamais, c'est super d'avoir des enfants, mais il ne faut pas que ça se voit, il ne faut pas que ça se sache.
Est-ce que c'est juste une question de durée ?
Alors, en effet, l'allongement du congé paternité, ce n'est pas une potion miracle, hein. Il n'y a pas que ça. Ça doit s'accompagner, je pense, d'un vrai souci d'accompagnement des parents et des pères pendant la grossesse, pour qu'on comprenne bien l'intérêt de le prendre, ce congé paternité. Et puis, encore une fois, il faut travailler sur sa protection, que les pères ne se sentent pas pressurisés à l'entreprise de ne pas le prendre ou de le prendre partiellement. Donc, c'est un travail plus global sur le paradigme, en fait, de ce que c'est que de devenir parent aujourd'hui et d'impliquer les pères à avoir envie de le prendre, mais aussi d'expliquer aux entreprises qu'il faut changer un peu la culture d'entreprise en France, qui est quand même très genrée, qui a tendance à dire, bon, c'est aux mères de s'occuper des enfants et les pères, bon, peuvent retourner travailler. Aujourd'hui, les pères de ma génération et encore plus jeunes ne sont plus du tout dans cette logique-là et ont envie d'avoir une conciliation vie professionnelle et vie privée beaucoup plus équilibrée. Donc, allongement d'accord, mais il faut que ce soit accompagné de tout un accompagnement professionnel, sociétal, assez important pour que ce soit efficace.
En France, en attendant que le gouvernement ne se saisisse du dossier, les associations n'ont pas été les seules à militer pour l'allongement du congé paternité. Certains chefs d'entreprise ont également voulu jouer un rôle. Isabelle Rabier, PDG de la start-up Joli Moi, et les patrons de Litchi et Mon Docteur, tous trois jeunes parents, ont rédigé ensemble le Parental Act, publié en février 2020.
L'égalité entre les femmes et les hommes est un combat qui se gagnera par des avancées concrètes et non des déclarations de principe. Nous, entrepreneurs et dirigeants, estimons que nos entreprises ont un rôle historique à jouer dans cette cause essentielle. Le progrès collectif, la liberté et la justice passent par l'égalité. Nous voulons faire évoluer nos sociétés pour contribuer à changer la société.
Ce document engageait les entreprises signataires à passer à 28 jours de congé paternité avant que la loi ne soit votée. Près de 400 entreprises l'ont signé, dont Blablacar, Dailymotion ou encore L'Occitane, pour ne citer que les plus importantes.
On a décidé de prendre les choses en main et de lancer le Parental Act, c'est-à-dire de rassembler des entreprises qui nous suivaient dans cette démarche et de leur proposer de mettre en place un congé deuxième parent dans l'ensemble de nos entreprises, de le financer, puisque à l'époque, l'État ne le faisait pas. Et on s'est dit, on va montrer la voie, on va le prendre à notre charge et on va montrer que les dirigeants, les chefs d'entreprise sont partants en fait pour mettre en place ces nouvelles mesures et permettre à plus d'égalité entre hommes et femmes.
Est-ce que une autre difficulté pour les entreprises, c'est l'organisation? Est-ce que ça, c'est un retour qu'on vous a fait aussi ?
Absolument. Alors, c'est là aussi où les échanges avec certains grands groupes qui ont travaillé sur le sujet. Moi, je pense à deux groupes, notamment Kering et L'Occitane, avec lesquels on a eu la chance d'échanger. L'intérêt de ces groupes, c'est qu'ils l'ont fait à un niveau énorme et international sur plus de dizaines de milliers de salariés. Donc, ça compte et donc ça montre aussi que c'est possible. Et en ce qui nous concerne, en fait, à partir du moment où il y a une volonté du dirigeant de mettre en place ces mesures, bien sûr, il y a des questions d'organisation. Il y a surtout aussi des questions d'évolution culturelle au sein des managers, organisé. Maintenant, ce qu'on se plaît à dire souvent, c'est qu'en fait, la naissance d'un enfant, elle est très prévisible en général. On a quand même 9 mois pour s'y préparer. C'est beaucoup plus prévisible qu'une pandémie. C'est beaucoup plus prévisible qu'une maladie même. Et donc, en fait, bien sûr, ça demande une organisation particulière. Moi, je pense qu'avant toute chose, ça demande de la pédagogie, expliquer, faire évoluer les mentalités et donc montrer l'exemple aussi. Et donc, par rapport aux managers, on leur explique que, en fait, tout ça s'organise et qu'aujourd'hui, quand ils vont recruter un homme ou une femme ou quand ils vont manager un homme ou une femme, le fait que cet homme ou cette femme devienne parent n'aura plus d'impact et ne biaise biaisera plus, à moyen long terme, les promotions, ne biaisera plus le recrutement, même parce qu'on se dira pas... Ah, je recrute une femme qui est entre 25 et 40, elle va me faire un enfant, deux enfants, ça va être compliqué à gérer pour moi. En fait, l'organisation aujourd'hui, quand tout pèse sur la femme, parfois ça peut créer aussi des désorganisations parce qu'il y a une absence prolongée des femmes. Pourquoi ? Parce que le retour à l'emploi parfois peut être compliqué si justement la charge pèse 100% sur la maman. Alors qu'aujourd'hui, comme c'est plus équilibré, et ce qu'on espère, c'est que cette forme d'équilibre qui va naître grâce au congé deuxième parent entre l'homme et la femme, et notamment une répartition des rôles dès la naissance de l'enfant beaucoup plus équilibrée, ça va vraiment permettre aux femmes d'un retour à l'emploi qui est facilité et dans la continuité aussi de rester en entreprise. Et pour le papa aussi, pareil, il pourra lui s'absenter parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'aujourd'hui, les papas et les deuxièmes parents ont envie aussi de s'investir dans cette relation avec leur enfant, que parfois c'était une frustration et que parfois même prendre des jours, c'était mal vécu en entreprise parce qu'il n'y avait pas d'exemple, parce que ça ne se faisait pas. Et bien maintenant, ça se fait, c'est même légalisé et donc de plus en plus, on va pouvoir s'organiser autour de ça, les managers vont pouvoir anticiper ça et le préparer. Quand on n'a jamais fait quelque chose, c'est toujours perturbant, mais quand un salarié, deux salariés, trois salariés prennent leur congé et que même on célèbre presque et on fête en fait la prise du congé du papa comme on fêterait finalement la naissance d'un enfant pour une maman, ben on va le faire pareil pour un papa et on va pouvoir lui parler de son enfant et lui dire bon, ben super, profite bien et on te revoit dans un mois, ben, petit à petit ça va faire évoluer les mentalités et l'organisation va d'elle-même se mettre en place en fait.
Nicolas
Power ! France Inter.
C'est
sport, tu connais ?
Interception. Oh,
selon le dernier rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, les pères consacrent plus de temps aux activités parentales. 30% contre 20% en 1985. Certes, la donnée montre une progression, mais tout ça est bien loin d'être spectaculaire. Surtout quand on regarde ce qui se passe autour de nous. Nous avons déjà parlé de l'Espagne un peu plus tôt, mais comme souvent, sur ces questions d'organisation de la société, c'est la Scandinavie qui fait figure de brillante élève. Magali Fichter s'est entretenue avec un ancien expatrié en Norvège, aujourd'hui installé en Suisse.
On vient d'arriver à la gare de Lausanne. On est ici pour rencontrer Tristan, champion, et toute sa famille. Tristan, il a écrit un livre qui s'appelle « La barbe et le biberon », où il raconte son congé paternité en Norvège. Et maintenant, ils habitent en Suisse avec sa femme et leurs trois enfants. Donc on va se rendre chez eux pour qu'ils nous racontent un petit peu leurs aventures.
Entrée, c'est le premier étage.
Ok.
Tristan Champion, je suis père de trois enfants. Mon premier, Émile, est né à Paris, il a 7 ans aujourd'hui. Ma deuxième, Nora, est née en Norvège. Elle a 3 ans aujourd'hui et c'est à sa naissance que j'ai découvert le congé paternité en Norvège. Et j'ai une petite, et là, une dernière, qui est née en Suisse et qui a quelques mois. Donc je suis marié avec Louise, qui a un prénom français mais qui est norvégienne et que j'ai rencontrée dans un séjour étudiant en Autriche il y a longtemps maintenant. Donc on est vraiment une famille européenne.
Deuxième enfant en Norvège. Et Louise vous dit, on le fait à la norvégienne, donc se pose la question du congé. Alors déjà, est-ce que vous pouvez rappeler le congé paternité à la norvégienne, comment ça marche et comment vous le prenez à ce moment-là ?
Alors, c'est vrai qu'à la naissance de Nora, j'ai découvert le congé paternité norvégien qui a des règles très différentes de chez nous, puisque d'abord, on ne parle pas vraiment de congé paternité ou de maternité, on parle de congés parentaux, donc ça c'est la base. Et d'abord, ils sont de longue durée, donc on parle de 10 mois, avec des répartitions au sein du couple. On avait un quota pour la mère, un quota pour le père et un quota à partager. Donc sur les 10 mois, il y a 3 mois donnés à la mère, il y a 3 mois également donné au père et 4 mois à se partager. Le système, il est assez bien fait quand même, mais il y a des petites subtilités, c'est que le congé du père ou du deuxième parent, on va dire, parce que c'est comme ça officiellement, le congé du deuxième parent n'a pas le droit d'être pris en même temps que le premier parent. Donc ça veut dire que dans la plupart des cas, c'est la mère qui commence puisqu'elle allaite et elle va faire les 3 premiers mois de congé. Ensuite, il y a 4 mois au milieu, on va se les répartir comme le couple le souhaite. Dans beaucoup de cas, c'est quand même la mère qui va se les accaparer parce qu'elle a accouché, elle veut allaiter, elle se sent légitime à s'occuper longtemps d'un enfant. Et le père, Il a déjà 3 mois, c'est déjà pas mal. Donc souvent, il y a pas mal de pères qui disent « Bon, ben, je ferai juste mon quota à moi ». Et suite à ça, l'enfant est placé en crèche. Contrairement à la France, il n'y a pas de place en crèche avant que l'enfant ait 10 mois et 1 an. Alors que nous, en France, on pouvait quand même lâcher l'enfant en crèche dès 3-4 mois. Il y a des structures pour accueillir l'enfant. Moi, j'ai dit à Louise, je sais pas comment tu veux le faire. Moi, 3 mois, ça me suffit. C'est déjà, j'avais fait que 11 jours chez Emile. Moi, je travaille dans le privé, elle est dans le public. Moi, j'ai un peu plus carriériste. Elle est prof. Autour d'elle, il y a plein de femmes profs qui prennent plutôt les 7 mois. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, ça me va 3 mois. Mais elle avait, non, écoute, t'es gentil, mais moi, je me suis tout tapé en France et à Paris. C'est moi qui me suis occupé d'Emile tout le temps. Ici, les règles, elles sont égalitaires, donc on fera 50-50, et puis je prends 5 mois, et tu feras 5 mois, et c'est non négociable.
Ce que vous racontez dans le livre, ouais. Quand même, c'est que c'était pas évident, quand même. Vous aviez un petit peu de la trouille, quand même.
J'ai essayé d'utiliser des subterfuges pour pas y aller, parce qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles je voulais pas m'occuper longtemps d'un enfant. D'abord, je trouve que c'est un peu ennuyant, un enfant, surtout en bas âge, il n'y a pas beaucoup d'interactions, donc... La première chose que je me suis dit, c'est je vais m'embêter pendant si longtemps. La deuxième chose, c'est est-ce que j'en suis vraiment capable ? Et ça tombait super mal pour moi parce que le congé paternité tombait en même temps qu'une promotion qui s'ouvrait au travail. Ma femme me disait, mais t'inquiète pas, en Norvège, c'est commun, donc il ne va rien se passer pour toi. Le marché du travail est fait comme ça, tu ne vas pas être discriminé parce qu'il s'est passé ça. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé pour moi, parce que j'ai dû y aller et je lui ai demandé à ma chef, oui, je veux postuler pour le poste de manager et oui, je pose 5 mois de congé paternité. Elle m'a dit, écoute, j'avais pas pensé à toi pour le poste de manager, mais je vais quand même te faire une promotion pour les 5 prochains mois. Je vais te donner un poste intérimaire de manager. Mais j'avais peur d'aller dans le bureau. J'avais peur de sa réaction. J'avais peur de griller ma carrière. Si jamais elle me disait « Non, je te donne le poste, mais tu prends pas ton congé paternité », j'avais peur de devoir dire à Louise « Allez, s'il te plaît, laisse-moi privilégier le poste par rapport au bébé ». Donc j'avais peur, en fait.
Tristan, ce serait quoi la prochaine étape ?
Là, c'est une évolution, c'est pas une révolution. C'est y a une prise de conscience que c'est un intérêt pour les pères de s'engager. Donc, du coup, le gouvernement a répondu partiellement. En fait, finalement, la différence, c'est que la Norvège a dit « Quel est le parcours des parents la première année ? Comment on peut rendre ce parcours égalitaire pour notre société ? La France dit « Ah, bah, il y a 3 mois pour la mère, il y a 1 mois pour le père, il y avait 2 semaines, on passe à 1 mois, c'est un peu plus égalitaire. » Non, mais l'enjeu, c'est pas de dire « On va faire le même durée », l'enjeu, c'est d'avoir un système de la parentalité, un parcours parent la première année. Et ça, on n'y est pas encore en France. Il y a encore un manque de vision des gouvernements, et un manque de, on va dire, d'engagement des pères en particulier. Et quand tu auras les deux qui vont arriver, ça va changer.
En Norvège, pour faciliter le parcours du deuxième parent pendant cette première année de l'enfant, de nombreux dispositifs sont prévus. Par exemple, à Oslo, où vivait Tristan, la municipalité met en relation les jeunes parents d'un même quartier qui ont eu leur bébé à peu près en même temps. Après la naissance, des groupes sont créés pour échanger, se retrouver au café, se donner des conseils ou faire des activités ensemble. Et des activités, il y en a une multitude pour les bébés et leurs parents. Piscine, randonnée, yoga et même chorale. Dans ces conditions, près de 40% des papas norvégiens prennent plus que leur congé obligatoire, qui est déjà de 10 semaines. En France, on est très loin du yoga papa-bébé. Si on veut prendre plus que le congé paternité, il faut avoir recours au congé parental. Mais il est très marginal chez les pères et très mal rémunéré. Hélène Périvier est économiste à l'OFCE Sciences Po, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Alors, le congé parental, lui, pose plutôt la question de l'articulation vie familiale, vie professionnelle. Ce qui n'est pas le cas du congé maternité-paternité. Ça, c'est plutôt des congés plus courts qui sont à prendre au moment de la naissance de l'enfant. Le congé parental, ça vise vraiment à permettre aux parents qui le souhaitent de s'arrêter de travailler au moment de la naissance d'un enfant jusqu'à sa scolarisation. Enfin, ça dépend beaucoup des dispositifs. Ou de réduire son temps de travail pour avoir un équilibre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Alors, ce qu'on observe, et c'est pas propre à la France, c'est que dans la plupart des cas, c'est des femmes qui prennent ce congé. Donc, la mère, elle va enchaîner congé maternité, puis derrière, chercher une façon de s'organiser avant la scolarisation de l'enfant. Et donc, certaines d'entre elles vont opter pour un congé parental plus ou moins long, soit en réduisant leur temps de travail, soit en s'arrêtant intégralement de travailler. Ça dépend aussi des contraintes en termes d'accueil disponible pour l'enfant. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, en France, le recours des pères à ce congé est extrêmement faible, hein, puisque c'est moins de 3% si on prend l'ensemble du congé, qu'il soit temps plein, temps partiel, premier enfant ou deux enfants ou plus. Donc 98% des allocataires sont des femmes, en gros. Hein. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ça renforce le fait que, à la fois sur le marché du travail, ben, les femmes sont identifiées comme potentiellement moins fiables. Donc pour des jeunes femmes qui vont se présenter, ben, l'employeur va peut-être hésiter parce qu'il va se dire ben, si jamais elle a un enfant, elle va prendre ce congé, elle sera pas là, ça va compliquer l'organisation. Alors que ce risque associé à la parentalité n'est pas du tout supporté par les pères. Donc c'est un véritable problème en matière d'égalité professionnelle que ce congé soit sexué.
Alors est-ce qu'il faudrait pas faire un petit peu comme ce qui se fait en Norvège notamment, c'est organisé pour que les pères et les mères puissent rester à part à peu près égales, même si voilà, auprès de leur enfant. Est-ce qu'il faut s'en inspirer, selon vous, ou pas ?
C'est vrai que ce modèle nordique, parce que c'est vrai pour la Norvège et pour d'autres, tient beaucoup à la fois à l'intégration de l'égalité professionnelle. Ça, c'est vrai que ce sont des pays qui prennent en compte cet objectif de façon très structurante dans leur politique publique, mais aussi à des normes éducatives différentes. Si on calait le modèle nordique sur le modèle français, ça voudrait dire qu'on n'a pas d'autre choix que de garder son enfant soi-même la première année ou la première année et demie de l'enfant. Il faut bien avoir ça en tête. Or, aujourd'hui, en France, le congé parental, par exemple les mères, il n'y a que 30% des mères qui prennent ce congé. Donc, il y a quand même 70% des mères qui ont envie de s'organiser différemment. Donc, je pense qu'il faut essayer de reconstruire des politiques publiques qui soient porteuses d'égalité femmes-hommes, d'égalité des enfants, d'égalité sur le territoire, mais en gardant cet atout qui est que voilà, on est dans un pays où les parents peuvent retravailler s'ils le souhaitent rapidement après la naissance de l'enfant.
Oui, mais parce qu'il y a la question du financement. Alors, comment on peut financer tout ça ?
La question du financement, elle est très importante parce qu'il s'agit pas de dire que les finances publiques ont pas d'importance et qu'on peut dépenser comme on veut. En même temps, elle est à repenser dans l'ensemble des politiques sociales et fiscales. C'est-à-dire que dans une société démocratique, il faut pas non plus qu'on se limite parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire ça. Il faut juste voir à quoi voulons-nous renoncer pour pouvoir mettre en œuvre ce type de politique publique. Alors, il y a plein d'idées impossibles, hein, mais je pense qu'il y a, en matière de politique fiscale, des dispositifs qui sont très conservateurs, issus des années 50, par exemple le quotient conjugal, hein, qui est l'imposition des couples mariés pacsés, qui est une vraie dépense fiscale très importante, hein, entre 3 et 7 milliards d'euros par an. Donc, on est vraiment sur des choses qui pourraient être redéployées vers une politique familiale, qui permettent l'émancipation des individus, l'égalité dont je parlais tout à l'heure. Il faut voir où on veut aller. Et si nous voulons aller vers une société qui porte l'égalité, et l'égalité des sexes en particulier, il va falloir être un peu ambitieux et renoncer à des choses pour pouvoir financer d'autres choses. Donc je pense que cette question du financement, elle est très importante parce que elle structure l'articulation de nos politiques publiques, mais elle doit pas être un frein on peut pas se le permettre parce que c'est beaucoup trop coûteux pour les finances publiques, parce que ça, c'est pas une bonne raison pour pas le faire. La bonne raison pour pas le faire, ce serait parce que nous ne souhaitons pas avoir ce type de politique publique où cet objectif ne nous semble pas souhaitable. Mais si nous pensons collectivement que c'est un objectif à atteindre, alors c'est possible, en tout cas, d'améliorer la situation. Ça, il y a des marges de manœuvre très larges.
On retourne en Alsace pour donner le mot de la fin aux parents de la petite Léonore, Julien et Marie-Hélène.
Julien, vous avez eu 4 mois de congé parental. Quel regard vous portez sur le congé paternité qui fait 11 jours jusqu'à présent, qui va faire 28 jours au 1er juillet ? Quel regard vous portez sur ce congé paternité-là ?
Ça reste encore beaucoup trop peu, mais le plus important, c'est qu'on va vers la bonne direction. On n'est pas en train de réduire le congé parental ou de réduire les aides pour le faire. On est en train d'aller dans le bon sens. Et tout ce que j'espère, c'est qu'au fur et à mesure, on arrivera vraiment à des conditions quasiment identique du droit de prendre le congé, que ce soit le père ou la mère. C'est, après, chacun fait comme il veut. Hein. Si un foyer décide que c'est maman qui va rester un an, deux ans, trois ans à la maison ou pas, voilà, c'est à chacun de faire. Mais ce qui, à mon sens, ce qui est important, c'est que on tende de plus en plus vers cette égalité des possibilités et qu'on remette aussi en avant l'utilité de rester à la maison, de s'occuper de son enfant.
Je pense que chaque famille doit pouvoir choisir ce qu'il a envie de faire. On n'est pas obligé de prendre ce congé paternité. On n'est pas obligé de prendre un congé maternité plus long. Mais chacun doit pouvoir choisir ce qu'il a envie et pas avoir des regrets de dire « mince, j'ai pas vu grandir mon enfant ». Et il n'y a pas de bonne manière de faire, mais juste d'avoir la possibilité de le faire. Je pense que c'est super important. Et oui, il faudrait vraiment que ce soit encore plus allongé. Je pense que c'est déjà une mesure qui est... C'est très bien, mais c'est pas fini, quoi.
Moi, je vais aller au travail. Toi, tu vas aller faire une sieste, je crois.
Mais maman, elle revient après. Oui,
je
oui.
reviens ce soir.
Un congé paternité plus long, un progrès bien timide. C'était un reportage de Magali Fichter avec Hélène Langlois à la prise de son, réalisation de Violaine Ballet avec Martine Messonnier, mixage d'Ophar Guéride.
Papa,
oui.
Maman,
maman, il est au travail, oui. On revient ce soir, t'inquiète pas.
La semaine prochaine, focus avec Daniel Messager sur la psychiatrie en France dans un piteux état après des années et des années d'abandon.